cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 17 décembre 1993.
J'aimerais préciser ma question. Ne confondrez sens de sa dignité propre, sens de la finalité. Chez le grec, elles furent très liées. Peuvent-elles encore être aujourd'hui? Pardon, il y a l'autre avant. C'est pour ça que c'est un post-scriptum. Non. La responsabilité de l'artiste à l'égard de son œuvre se fonde-t-elle sur un saint amour de soi? L'excès de cet amour serait orgueil. Son défaut, oui, pusillanimité. Cet amour ne fonde-t-il pas la magnanimité? L'amour de la fin ne dépend-il pas de cet amour de soi? La prudence serait alors conditionnée par cet amour dans l'ordre de la disposition. Le fondement de l'acquisition de la vertu consiste-t-il en un saint amour de soi? Alors, j'aimerais préciser ma question. Ne confondrais-je pas sens de cette identité propre, sens de la finalité? Oui, j'ai pas tellement envie d'entrer tout de suite là-dedans. Parce que c'est la question de la comparaison de la prudence et de l'art. On doit voir la prudence en elle-même. Et c'est quand on voit l'art qu'on compare avec la prudence. Au plan philosophique, hein, vous comprenez bien. Au plan psychologique, c'est l'inverse. L'art est toujours premier. Et c'est le défaut constant de la psychologie, c'est qu'on reste au niveau art. Alors là, il y a quelque chose qui serait très intéressant à creuser. Notre connaissance pratique implique l'aspect prudentiel, l'aspect artistique. Nous avons deux connaissances pratiques qui sont constamment liées dans la connaissance pratique politique. La connaissance politique implique l'art et la prudence. Comme un au-delà, d'une certaine manière. Et on peut abstraire ce qu'il y a de commun dans l'activité humaine, artistique et morale, dans la psychologie. Mais en réalité, ce n'est plus l'activité humaine, c'est l'activité de l'homme. Ce qui explique pourquoi le psychologue ne veut pas parler de morale, mais il parle de l'activité de l'homme. S'il disait qu'il parle de l'activité de l'homme, il n'y aurait pas d'équivoque. Dès qu'il dit activité humaine, c'est équivoque. Pour le philosophe. Parce que l'activité humaine, elle est morale. Et vous pouvez parler du courage, de l'éthique de l'artiste. Il y a des artistes extrêmement vertueux qui sont peu artistes. L'art de Saint-Sulpice. On fait des statues de la Vierge avec une piété ravissante. Mais il n'y a pas un pouce d'art. Oui. Alors, la morale à tout prix. Le théâtre de Gabriel Marcel. À la différence du théâtre de Sartre. Quand vous avez le temps, pas au début, pas la première année, parce que... Mais après, c'est très intéressant. traiter cette question-là, ça ne cesserait un tout petit peu en dehors. Je comprends que c'est intéressant, voir la question. Autrement dit, posons-nous la question. Y a-t-il quelque chose de commun dans l'activité artistique et l'activité prudentielle? Ou est-ce que ces deux activités sont, dès le point de départ, distinctes? Et vouloir prendre quelque chose de commun, c'est abstraire de l'un et de l'autre l'élément homme. Vous avez déjà vu dans les forêts, dès le point de départ, deux troncs de sapin qui se touchent au point de départ. Alors évidemment, ils ne peuvent pas tout le temps se toucher, hein, parce qu'ils grossissent. Alors ils s'écartent. Mais dans la souche, il n'y a pas de tronc commun. Tous les deux sont enracinés. Alors, je me pose la question, y a-t-il une activité pratique de l'homme qui n'est ni artistique, ni morale, que le psychologue peut saisir? Le psychologue ne fait pas une connaissance spéculative, il en a horreur. Hein. Parce que dès que vous avez décidé, ça ne va plus. Il ne faut pas en avoir. Alors, y a-t-il, s'il faut se poser loyalement la question, ça fait partie des questions qu'on doit se poser cette année-ci pour comprendre la philosophie et le point de vue psychologique. Eh bien, le philosophe se pose tout de suite la question, y a-t-il un tronc commun à l'activité artistique et à l'activité morale? Un petit tronc commun. Ou est-ce que dès le point de départ, l'activité artistique est distincte de commun? Le psychologue peut essayer de saisir ce quelque chose de commun. Il n'est pas au niveau moral, il n'est pas au niveau artistique. Ou est-ce que ce quelque chose de commun, il le saisit en abstrayant le point de vue moral de la finalité, le point de vue artistique de sa finalité propre, l'œuvre, et qu'il saisit l'activité de l'homme, de ce vivant qui est l'homme? Alors ce serait une abstraction. Le concret, c'est l'activité artistique, l'activité morale. Vous voyez la question? Je crois que c'est très très important de se poser avec beaucoup de lucidité la question. Et au fond, c'est un petit peu ça qui est sous-jacent. Est-ce que l'amour de soi est quelque chose de commun à l'activité artistique, à l'activité morale? L'amour de soi. L'amour de soi, au point de vue psychologique, c'est très intéressant. Parce que vous comprenez bien, la finalité, c'est moi. Alors, cet amour de soi existe-t-il des deux côtés, comme la note dominante, qui ne serait pas une finalité, parce que s'aimer, c'est pas une finalité. C'est une condition sine qua non à l'amour des autres et à l'activité artistique, je crois. Une condition sine qua non. Alors, est-ce que le psychologue étudie les conditions sine qua non de l'activité de l'homme? Ça, ce serait très intéressant à préciser. Je crois que tant qu'on n'a pas fait cette précision-là, on peut baratiner saisir. Tandis que là, on peut saisir quelque chose. Prenez n'importe quelle analyse psychologique. Dans le dernier livre de Jeannine Gadon, c'est très clair chez elle, c'est l'avantage. Et de voir qu'est-ce qui est impliqué dedans. Est-ce qu'on parle à l'artiste? Est-ce qu'on parle à l'éthique? Moraliste. On parle à l'homme. Mais l'homme, c'est qui? Est-ce qu'on parle à l'homme? sur les rapports de la philosophie et de la psychologie, on ne voit pas sur quoi porte exactement la psychologie. Quel est son objet propre ? La ratio formaliste de ce qui prétend être une science pratique. La raison formelle de cette connaissance, est-ce que c'est quelque chose de commun ? Cours, vous disiez que la prudence est une connaissance pratique qui ne peut s'épanouir. parce que l'art regarde uniquement l'œuvre à réaliser et non pas l'homme. Tandis que l'acte moral regarde l'homme dans sa finalité, qui veut atteindre sa finalité, qui veut son bonheur. Atteindre sa finalité, c'est son bonheur. Et c'est là où il y a quelque chose de très très important à saisir. Qu'est-ce qui constitue l'acte moral comme acte moral? Toute l'encyclique qui le voit du côté chrétien. Moi je cherche à comprendre du côté philosophique. Alors vous allez me dire, au fond, vous faites au plan philosophique psychologue. Vous reprochez au psychologue de ne pas regarder l'intention de vie. Le chrétien dira, votre philosophie ne regarde pas l'intention de vie chrétienne, mais l'intention de vie de l'homme. Or, l'homme est en pécheur. Peut-il encore poser des actes humains? C'est quand même important d'avoir ça. Si l'homme, sans la grâce, ne peut plus poser aucun acte humain, il n'y a pas de philosophie éthique. Autrement dit, est-ce que la foi chrétienne me dit que la nature humaine est tellement corrompue que je ne peux plus poser aucun acte? Est-ce que, à cause du péché, ma nature humaine n'est plus une nature humaine au plan pratique? Est-ce qu'affirmer cela, est-ce que ce n'est pas du fidéisme? Est-ce que ce n'est pas l'erreur? Philosophique et le point de vue de facto de l'éthique chrétienne. Autrement dit, est-ce que l'éthique chrétienne supprime une éthique humaine? Personnellement, je crois que l'éthique chrétienne est la seule parfaite. Sauf doit être capable de le dire. Je ne dis pas nécessairement de le vivre, mais de le dire comme philosophe. Et qu'il reconnaît que l'éthique humaine, comme éthique humaine, indépendamment du point de vue chrétien, restera toujours dans un état d'imperfection. Que les relations entre philosophique humaine et l'éthique chrétienne n'est pas la même relation qu'entre l'éthique fondamentalement humaine et l'éthique religieuse. C'est intéressant de mettre en parallèle, hein, puisque essayez d'exprimer vos objections avec la plus grande netteté. Parce que quand l'objection est posée d'une façon pas très claire, on ne peut pas répondre. On cherche pour comprendre la question. Je sais bien que c'est difficile, mais c'est pour ça que c'est excellent comme exercice. C'est excellent comme exercice dès qu'on a une objection de l'écrire et d'essayer de faire que cette objection soit écrite avec netteté pour qu'on voit sur quoi elle porte. Et autant que possible en rapport avec le cours. Alors, je continue. L'acte prudentiel. C'est l'acte humain qui me structure comme un être moral. L'acte prudentiel, c'est l'acte humain qui me permet de voir comment l'union affective devient une union effective. Donc, n'avorte pas. Et se prolonge dans toute ma vie d'homme. Et ne soit pas seulement un acte qui demeure intérieur, bon intérieurement, excellent intérieurement, mais qui ne s'incarne pas. Cette tentation permanente de demeurer dans un idéalisme moral. Considérer que la seule chose qui est pure dans l'homme, ce sont ses intentions. Mais dès qu'il passe au-delà de l'intention, c'est très chaotique, c'est très difficile de considérer que l'un est mieux que l'autre. Vous voyez, alors on fait une séparation entre le point de vue de l'intention de vie et la recherche des moyens. L'intention de vie demande de se concrétiser dans ma vie pour faire que toute ma vie humaine soit transformée par cette intention de vie et que cette intention de vie prenne tout son caractère réaliste. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est même capital. Passage implique prudentiel. C'est même là où, de fait, le point de vue de la prudence s'exerce de la manière la plus explicite. Je vois toutes les possibilités en vue de la réalisation de cette intention de vie. Je vois toutes les possibilités et je m'arrête à telle ou telle possibilité. Et je le fais en pleine conscience, connaissance pratique. Je sais qu'il y aura toujours, dans le choix des moyens ou la recherche du moyen le plus en connaturalité avec moi, ou le moyen le plus proche de la fin. Et je crois que un homme prudent voit toujours ça très clairement. C'est le propre de l'homme prudent, du reste, de le voir très clairement. Étant donné mon état, étant donné ma fragilité, étant donné mes faiblesses, étant donné mes difficultés, je choisis tel moyen, ce n'est pas le plus parfait, mais je crois que c'est le seul qui peut être efficace pour moi. Ou je choisis au contraire ce moyen qui est beaucoup plus proche de la fin, qui me mettra en connaturalité profonde avec ma fin. Il est difficile, il est difficile pour moi de le réaliser, mais c'est ça que je choisis. Vous voyez, dans la vie chrétienne, par exemple, l'hésitation entre la vie religieuse et le mariage, concrètement, qu'est-ce qu'il choisit? Évidemment, je prie, et je demande au Saint-Esprit don de conseil. Et ce don de conseil va agir sur la prudence infuse, qui transforme l'acte prudentiel. Et l'Esprit Saint me fera comprendre qu'il faut prendre des deux côtés la petite voie. Et dans la petite voie, étant donné ma fragilité, il vaut mieux éviter pour le moment le choix d'un moyen que je ne pourrais pas. Je n'exclus pas le point de vue de la vie religieuse, mais je dis pour le moment, c'est impossible. Alors je choisirai l'oblature. Et si je ne veux même pas choisir l'oblature, je dirais, il vaut mieux rester dans le monde. Et si vous restez dans le monde, il faut peut-être me marier. C'est peut-être mieux. Parce que j'aurai le soutien de quelqu'un. Et j'ai absolument besoin de ça. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit présent auprès. Quelqu'un, ils sont présents auprès de moi tout le temps, mais ça ne peut être qu'un mari. Il ne sera pas tout le temps là parce qu'il devra travailler, mais au moins il reviendra à telle heure. Et tous les jours, je pourrai le voir. Normalement. Je ne choisirai pas un officier, non. Je ne choisirai pas un marin sous-marin. Je dirais quelqu'un, je connais quelqu'un qui est merveilleux dans sa vie, mais pour moi, sinon c'est trop difficile. Ça ressemble trop à la vie religieuse. Vous voyez, c'est ça la prudence. Hein. On se connaît fragile. On connaît ses désirs, sa soif de sainteté si on est chrétien. Et si on est tout simplement un homme, faire quelque chose qui soit grand. Quelque chose qui en vaut la peine. Faire de sa vie quelque chose qui en vaut la peine. Et non pas être rampant. Et donc tout le temps aboyer. Et réaliser quelque chose. Alors là, je dois choisir où, par rapport à mon état, ce moyen, c'est sûr, proche de moi, il ne m'empêche pas quand même de garder cette finalité de mon intention de vie. Je veux être un saint. Je veux être tout proche de Christ, si je suis chrétien. saint Thomas, qui vient d'Aristote, qui est très très forte et qui est très intéressante. L'art a des voies déterminées, un tempérament artistique cherche ce qui est le plus déterminé dans les moyens, un tempérament beaucoup plus moraliste. C'est très bien que les moyens et la modalité des moyens changent suivant l'état dans lequel on est. Et donc, les déterminations de la prudence ne sont jamais absolues. Ça implique toujours du plus et du moins. Alors c'est là où la question, et une question très actuelle, se pose. Pouvons-nous dire qu'au point de vue prudentiel et au point de vue moral peut intervenir le moindre mal? Parce que c'est la grande question d'aujourd'hui. Et c'est la grande question d'aujourd'hui à des niveaux très élevés dans l'Église. C'est la question qu'on se pose pour une quantité de choses aujourd'hui.
Qu'est-ce qui mesure l'acte prudentiel en éthique personnelle?
artistique, c'est facile à comprendre. Je suis conditionné par la matière que j'ai. Je suis conditionné par les outils. Si je ne peux pas réaliser telle statue dans un bois noble, je prendrai un bois moins noble. C'est très dommage. Intérieurement, je dirais que c'est très dommage. Ce ne sera jamais aussi beau. Mais je ne peux pas faire autrement. Ça coûte trop cher. Vous voyez, un devis. L'architecte joue toujours là-dessus. Quels sont les matériaux que vous allez prendre? Ce sera moins beau, ce sera moins bas, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Vous voyez, je suis conditionné par l'argent, la valeur de la matière, des outils que j'emploie, et tout ça. Donc là, je comprends très bien qu'il y a du plus et du moins en raison de la cause matérielle. La cause matérielle étant l'argent, les outils et la matière. Et je suis conditionné par ça. Et je ne condamnerai jamais un artiste, parce que sachant très bien qu'il ne peut pas faire plus, il emploie telle matière. Donc le plus et le moins vient du côté de la cause matérielle. Toujours. La cause matérielle assumée par la forme. Au point de vue politique, je dois voter. Je prends un acte politique que vous faites. Hein. Presque tous. Il n'y a pas beaucoup parmi vous qui ne devaient pas voter. Hein. Enfin, les étrangers qui ne peuvent pas voter, je comprends. Un Mexicain, c'est difficile. Je ne sais pas s'ils peuvent voter. Ils peuvent voter par l'ambassade, sans doute. C'est un acte politique. Et l'Église nous demande de le faire. Parce qu'au sens strict, en tant que religieux, je ne suis plus un homme politique. Donc, je ne devrais même pas voter. Mais l'Église nous demande. Alors quand je dois voter, mais je vote sur des candidats que je n'ai pas choisis, qui s'imposent à moi. Je me pose la question, ne pas voter, m'abstenir. Est-ce un moindre mal que de voter pour tel ou tel autre candidat? Si je ne vote pas, je m'abstiens, c'est peut-être le mauvais candidat qui passera, le plus mauvais. Et donc, je vote le moins mauvais. Ce que je peux comprendre, ce que je peux saisir. Donc, vous voyez, il y a le moindre mal. Et quelquefois, c'est s'abstenir le moindre mal, ça c'est à voir, vous voyez. Mais je dois. Quelque chose qui s'impose de l'extérieur de moi. Dans l'acte moral personnel, alors, est-ce que je peux employer la question du moindre mal? Puisque là, je suis libre. Il n'y a pas quelque chose qui m'impose de l'extérieur. Un acte est moral s'il est conforme à ma finalité. Si un acte n'est pas conforme à cette morale, à ma finalité, il n'est donc pas moral. Et je ne suis pas obligé de le faire. Je dirais, mais, ah, mais je suis trop faible. Ah, mais je suis trop faible. Mais avouez que vous êtes faible. Et que vous êtes un pécheur, et puis c'est tout. Ce qui est terrible dans le moindre mal, c'est que le mal, en disant c'est un certain bien, faites ça. Puisque c'est pour éviter un plus grand mal. C'est pour éviter un plus grand mal parce que je suis faible. Alors je gratue les péchés. Et je me dis, il vaut encore mieux pécher de cette manière-là que de faire autre chose. C'était comme ça que Saint Augustin. Alors c'était ton plan politique. sans